Merci Minouche. On continue avec une expérience sonore d'un livre qui s'appelle Que viva la musica d'Andrés Caicedo dans la Colombie des années 70.
Au-delà de 25 ans, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sous des longs cheveux noirs et un visage doux d'adulte encore pubère, guette Andrés Caicedo, le faux vancage, l'écrivain compulsif, le cinéphile avide, mais surtout, l'effronté de la vie, l'arraché, le nihiliste. Caicedo, c'est un coup de gueule d'indocilité et de désobéissance. Une nuit de fête féroce. Un bolide s'écrasant à vitesse vertigineuse contre un mur. La fureur de son écriture et le réalisme truculent de son univers décadent ont séduit des hordes de lecteurs qui ont fait de ses écrits l'hymne d'une jeunesse qui s'abandonne à une vie de stridence, sans entrave. Plonger dans ses livres, c'est se perdre dans un vortex urbain furieux de musique, de bitume, d'extrême. C'est sentir le vent qui fouette dans la gueule, avoir la tête qui tourne, le cœur qui se débride. C'est l'odeur d'alcool et de vieux mégots d'herbe au fond de la gorge. Le rythme psychédélique de la salsa plus coriace s'invitant dans nos entrailles. C'est la trique, la mouille, la trouille, le refus, l'insolence, l'adrénaline. Caicedo succombe à sa propre fulgurance. Vivre au-delà de 25 ans est de fait ignoble et honteux. Cali, Cali calabozo, Cali succursal del cielo. Cali, c'est un cachot, mais c'est aussi un succursal du ciel. Caicedo n'a jamais vécu en dehors de Cali, cette ville colombienne de 2 millions d'habitants, tout près de la côte pacifique. Tout son univers, ses rencontres, ses découvertes, ses influences, c'est depuis sa ville qu'il les appréhende. Cali est le cadre où vont se dérouler tous ses récits. Ses personnages ne vont la quitter que pour se perdre à jamais ou mourir. Quel est le portrait qu'il nous rend de sa ville, de ses gens? La chaleur, l'humidité, la brise qui rafraîchit les corps, la vue des montagnes, Los Farallones, et celle du fleuve Pance qui la traverse. La ségrégation extrême entre un nord riche et un sud très pauvre. Les parcs, la foule des marcheurs. La musique qui résonne partout dans la rue, depuis les fenêtres, les commerces, dans les bus. Et la danse. La danse et l'avidité pour la fête. À Cali, on apprend à danser avant de marcher, avant de parler. Les nuits sont chaudes, endiablées, débordantes. Elles accueillent tous les vices, tous les excès. Cali, c'est un trou. Un cul-de-sac pour les jeunes qui, comme lui, s'adonnent à la rumba, à l'euphorie collective, tout en proclamant leur agitation imparable. Comme le dit bien cette expression archi-connue, « Agúzate que te están velando ». Remue-toi, on te surveille. « Agúzate que te están velando ». la musique. C'est le titre de son seul roman, qu'il a écrit alors qu'il avait 25 ans. La voix qui nous parle à la première personne, c'est celle de Maria del Carmen, qu'on surnomme la Mona, la blonde ou la mignonne, celle qui ne dit non à rien. Dans le récit qu'elle nous fait de sa vie, le temps de la narration est le temps même de l'écriture. Ce que la Mona nous raconte, elle est en train de l'écrire. Quand elle écrit, elle parle. Quand elle parle, elle écrit. C'est ainsi que, dans son texte, Caicedo va casser, fragmenter l'écriture, le langage. Il déforme l'orthographe, il brise la syntaxe en introduisant des expressions de l'argot de Cali, des expressions courantes, mêlées à des bouts de chansons. Tout le texte est bourré de références de musique. La Mona parle en musique. Elle parle rock. Elle parle salsa. Son récit est celui d'un voyage. Une traversée de la ville du nord vers le sud. Le basculement d'un univers à un autre. La Mona est une petite bourgeoise, blanche. Elle vient de finir son lycée, une école réputée pour jeunes filles. Elle vit chez ses parents dans une grande maison dans les quartiers nord de Cali. Andrés Caicedo connaît très bien ce milieu. Il appartient lui-même à cette classe aisée de Cali. Il en fait le portrait dans ses fictions. Une classe enfermée, retranchée sur elle-même, asphyxiée dans un espèce de limbe de grandes maisons obscures et froides. La Mona est impatiente d'éclater cette bulle. Elle se jette dans la rue, elle s'enfonce de plus en plus dans la nuit. Elle ne vit que pour la nuit. Et c'est par le biais de la musique qu'elle va tourner le dos à son milieu, les quartiers riches du Nord, la bourgeoisie, les intellectuels, les copains marxistes avec qui elle lit Le Capital, les copains d'enfance avec qui elle se drogue en écoutant du rock qui vient des États-Unis. C'est par le rock qu'elle plonge dans la nuit, mais c'est à un moment crucial qu'elle décide de saboter le rock pour, comme elle le dit, rester en vie. Saboter l'anglais, saboter l'influence omniprésente des gringos et de leurs psychedelic people. Elle veut pousser encore plus loin, aller vers les marges, errer dans les quartiers inexplorés, aller à la rencontre des marginaux, des bas-fonds, des quartiers du sud et leur misère. Les drogues, la violence, la délinquance, la mort, le viol, les bandes, les cohues, les voleurs, les travelots, les putes, les mendiants. Tout ça pourquoi ? Parce que la musique, la vraie musique vient du sud. C'est la salsa de Cuba et de Puerto Rico, les rythmes du guaguanco, du bougalou, qui ravagent la scène musicale de Cali dans les années 70. Quand la Mona découvre la salsa et sa rumba, elle s'adonne à cette forme de furie et d'extase qu'on appelle arrebato. C'est le frénésie de la danse, l'ardeur du mouvement, l'agitation, la vitesse.
Que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismito mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de
Thank you.
La Mona offre son corps et sa vie al goce pagano, le plaisir païen. Elle ne cherche qu'à satisfaire avec voracité ses appétits musicaux. Dans la rumba, la fête, la danse, la drogue, le sexe, tout est moyen d'intensifier l'expérience de la musique. Elle s'y consacre, elle s'y épuise, elle s'y perd. S'adonner à l'arrebato, c'est vouer un culte à la présence, à l'hédonisme, au narcissisme, à la destruction comme affirmation de la vie, pour que vive la musique. La Mona vit pour s'anéantir dans la rumba, dans sa soif de musique. Elle se livre sans résistance face à une puissance qui la détruit. Musique qui te nourrit de chair fraîche, toi qui ne laisses que des plaies. Musique à peine née, je me jette sur toi. À toi seul, je me consacre. Épuise mes forces si tu en es capable. Brouille mes valeurs. Coule-moi à pic. Abandonne-moi à la criminalité. Parce que je ne sais plus rien et de rien, je ne puis être sûre. La rumba, c'est quand on n'en peut plus. Musique qui me connaît, musique qui me stimule, m'évente ou m'abrite. Le pacte est scellé. Je suis celle qui te diffuse, qui ouvre tes portes et établit le pas, celle qui porte par les vallées la nouvelle de ta fusion et de ton anormale allégresse, la messagère aux pieds ailés, celle qui ne se repose jamais, celle de la terrible mission. Recueille-moi dans tes bras quand vient l'heure des faiblesses. Cache-moi. Trouve-moi un refuge jusqu'à ce que je me rétablisse. Apporte-moi des rythmes neufs pour ma convalescence. Présente-moi à la rue avec des forces renouvelées dans une soirée au collier de couleurs et que mes attitudes désarçonnent et égarent. J'éclaire et j'estompe tes airs pour qu'ils deviennent l'essence tragique de ceux qui me connaissent, qui me voient et ne peuvent plus m'oublier. Pour les morts. Toi, rends encore plus intenses les années d'enfance en les rechargeant avec l'expérience de l'adulte. Accouple la corruption à ta fraîcheur d'enfant. Traverse verticalement toutes les possibilités de la précocité. Tu en paieras le prix. À 19 ans, tu n'auras que la fatigue dans ton regard. Ta capacité à t'émouvoir sera épuisée et ta force de travail diminuée. Alors, bienvenue à la douce mort fixée à l'avance. Va au-devant de la mort. Fixe-lui rendez-vous. Personne n'aime les enfants vieillis. Toi seul, comprends que tu as emmêlé les années à gaspiller et les années de la réflexion en une torsade d'activités aussi intense que fourvoyée. Tu as vécu en même temps l'avance et la marche arrière. Toi, ne te laisse arrêter par aucun défi et n'en viens jamais à faire partie d'un quelconque camp. Qu'on ne puisse jamais te définir, te cataloguer. Que personne ne connaisse ton nom et que personne ne te donne refuge. Ne deviens jamais quelqu'un de sérieux. Fais de l'inconséquence et de la contradiction ta règle de conduite. Refuse les trêves. Établis ton foyer dans le ravage, l'excès et la trépidation. Tout est à toi. Tu as droit à tout. Et fais-le payer cher. Fais la fête jusqu'à être faite. Enrúmbate y después derrúmbate. Andrés Caicedo se suicide. Le même jour où il reçoit chez lui la première édition de que viva la música. Il a 25 ans.
En 1977, c'était le No Wave, courant punk basé sur l'improvisation et la destruction. L'une de ses figures abordées dans la chronique 7 milliards de pervers se nomme David Vojnarowicz.
Une nouvelle catégorie est née. Certes, il existait des sodomites, des bougres, des chevaliers de la manchette.
7 milliards de pervers.
Vous avez déjà su ça, militaire ?
Non, pas à ma connaissance.
Alors vous connaissez rien à l'amour ?
Je ne suis pas une homophobe.
Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est ça le scandale.
Moi, je trouve ça dégoûtant.
Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire.
Personne ne peut prononcer de paroles qui me touchent. Aucun geste ne peut me toucher.
David Vojnarowicz est un activiste gay américain mort en 1992 du sida, à l'âge de 38 ans. Adolescent prostitué, héroïnomane, enfui à New York, il sort de la rue grâce à ses œuvres artistiques et devient une des figures de la contre-culture de l'East Village aux côtés de Nan Goldin, Lydia Lunch et Richard Kern. Il renvoie à l'Amérique de Reagan et de Bush une sexualité hors norme, armée d'imaginaire et de violence. Il décrit la hantise de l'aliénation, qu'elle soit sociale ou sexuelle, et inscrit sa pratique artistique au cœur de sa résistance politique. La voix est son angle d'attaque, une voix qu'on croit entendre du désert, une voix d'outre-tombe parmi les vivants, porteuse d'une génération sacrifiée sur l'autel du plaisir, laissée à l'abandon et humiliée. C'est aussi la voix d'une régénérescence possible, taillant dans le marbre de la société américaine la silhouette de leur propre cauchemar. Et le lieu de la rédemption, c'est le corps désiré de ses amants, des corps où il apprenait à lire le nihilisme dévastateur de son époque, et leur propre résurrection.
Mes bras et mes jambes, mon visage, ma taille et mon attitude, les bruits émis par ma gorge. Je me déplace sur deux jambes et bientôt à quatre pattes. Je vois l'insignifiance.
Je pose mes mains sur ton corps, sur ta chair, je sens l'histoire de ce corps. Pas seulement le début de sa formation dans ce lac lointain, mais jusqu'au bout, au-delà de sa fin. Je sens la chaleur et la texture, et en même temps je vois la chair se détacher des couches de graisse et disparaître. Je vois la graisse disparaître du muscle. Je vois le muscle disparaître tout autour des organes et se détacher des os. Je vois les organes progressivement devenir transparents, laissant apparaître un squelette éclatant, éclatant comme de l'ivoire qui se dissout lentement jusqu'à devenir poussière. Je suis dévoré par la perception de ton poids, par la manière dont ta chair occupe l'espace momentané, par son entièreté sous mes paumes. Je suis stupéfait de voir comme ton corps se marie parfaitement aux courbes de mes mains. Si je pouvais attacher nos vaisseaux sanguins pour ne devenir qu'un, je le ferais. Si je pouvais attacher nos vaisseaux sanguins pour t'ancrer dans la terre, dans le moment présent, dans moi, je le ferais. Si je pouvais ouvrir ton corps, me glisser sous ta peau, voir à travers tes yeux et avoir mes lèvres soudées aux tiennes pour toujours, je le ferais. Ça me fait pleurer de sentir l'histoire de ta chair sous mes mains en ces temps de perte. Ça me fait pleurer de sentir les mouvements de ta chair sous mes paumes pendant que tu te tords, te retournes et t'agites pour atteindre mon cou et t'approcher de moi. Tous ces moments seront perdus dans le temps, comme des larmes dans la pluie.
When I was diagnosed with this virus, it didn't take me long to realize I'd contracted a diseased society as well.
Se demandait où était la normalité. Et c'était ça que je voulais bousculer, tu vois.
Well, at first, when it first came up, the two ambulances came with a police car in between them. And then Mr. Riggins' car came in. And the Secret Service walked in and kept saying, get out, get out, get out. And everybody was looking to know what was going on. Then he told us to get the hell out. And we saw his gun and everybody got up and started moving. Then by that time, when I got to the door, Mr. Riggins walked by and I was close enough I could have shook his hand.
Let's go back. Was this walking in? Was the president actually walking in under his own power?
No, there was two Secret Service on each side, and the president was holding his right, he was holding his left chest up on his arm.
But he was not carried in. He was not on a stretcher.
No, he wasn't on a stretcher.
Lynn Loftinger, an official in the Reagan White House, confirmed a short time later that the president had indeed been shot.
The president was shot once in the left chest. The bullet entered from the left side. He is conscious. He is in stable condition.
Mrs. Reagan rushed to the hospital, and the president jokingly told her, "Honey, I forgot the duck."
You ain't got no kind of feeling inside.
He was wheeled into surgery, and he took to his doctor.
I got Bill Chun upset just upon fire.
Right aside.
Good. me.
Tell me something good. Tell me, tell me, tell me, tell me.
Tell me that you like it.
L'émission se termine, Radio Podcast se termine. On va conclure avec, avec une lecture d'un extrait d'un livre de Lydia Lunch. Lydia Lunch qui était justement une des comparses de David Wojnarowicz, qui dans ce courant No Wave, leur truc c'était un peu de mélanger les disciplines. Donc les musiciens faisaient des films, ceux qui faisaient des films faisaient de la musique, même s'ils ne savaient pas faire la musique ou s'ils ne savaient pas faire de films. Et donc le livre s'appelle Paradoxia. C'est l'histoire d'une nana qui rencontre plein d'amants différents, qui baisse pas mal, qui prend beaucoup de drogue et qui vole des thunes à ses amants. Avant d'entendre Minouche, je vais simplement dire que vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur radiopotlatch.noblogs.org, que nous sommes là un dimanche sur deux de 16h30 à 18h30 et quelques, sur la clé des ondes 90.1. Et donc, Minouche, maintenant, c'est à toi.
Un club privé mais louche, la nuit. Il ne fait pas encore jour. Au petit matin, la quête frénétique, vitale, de sang frais. J'ai l'impression que ça ne donnera rien. Quand, dans le coin, j'aperçois un hidalgo latin jouant au solitaire. Nous sommes assis de biais l'un par rapport à l'autre. Je croise mes jambes, puis les ouvre, lui laissant entrevoir en un éclair ma culotte noire. Il se lèche les babines. Une bande de joyeux lurons bouche la vue, mais cela fait monter les enchères. La tête en arrière, il se mord la lèvre inférieure et pose sa main gauche sur son entrejambe. Sans le lâcher des yeux, j'ouvre mes jambes, glissant lentement jusqu'au bord du sofa en velours. Mon regard passe de sa bouche au creux de ses reins, puis remonte. Je lui montre ma langue, rose bonbon qui frétille dans ma bouche. Puis lui jette un dernier regard avant de me lever et de quitter la pièce. Il me suit, évidemment. Je passe la porte et me retrouve dans le bleu du ciel avec des striures roses vomies par une nouvelle journée. J'allume une cigarette et tire une longue bouffée. Il est à côté de moi. Rentre avec moi. Je ferme les yeux et murmure « Pourquoi ?» Pour que je te souffle de la coke dans le cul et que je te baise. Tu en perdras le souffle. Trouve un taxi. Nous glissons à l'arrière du monstre jaunâtre, hors d'âge. La voiture sent la sueur d'ivrogne, les clopes et le chewing-gum. Un vrai aphrodisiaque. J'ai un mouvement de recul quand mon partenaire dirige le chauffeur vers le Queens. La dernière fois que j'y étais, la seule fois, j'en suis revenue avec des hallucinations de boucherie et de mutilation. Mais ce coup-ci, je suis sobre, sans acide, ni défoncé ni ivre. Je ne plane pas, pas encore. Le voyage ne dure pas longtemps. Le panorama de Manhattan disparaît dans le soleil levant. Et il m'a enlevé mes chaussures, suçant un pied délicat, écrasant l'autre entre ses jambes. Je regarde par la fenêtre, blasé. Pas encore chaude, pas encore prête. Il me remet mes chaussures après avoir longuement respiré leur parfum, humé leur cuir chaud. Il paie la course et m'escorte dans un somptueux duplex. L'appartement entier est décoré des tons crème, ocre, blanc cassé. D'immenses baies vitrées encadrent la nécropole que nous venons de quitter. Nous ne nous sommes toujours rien dit. Il n'y a pas de raison de se parler. de la musique planante latino filtre doucement autour de la chambre. Il file à la cuisine pour préparer à boire. Un punch au champagne léger. Il revient avec un plateau d'opale sur lequel sont disposés des verres de cristal, un shaker et un poudrier rempli de cocaïne finement hachée. Il porte un toast en silence et mes yeux se remettent à briller. Peut-être n'est-ce qu'une petite illumination produite par la boîte magique à miracle sexuel qu'il vient d'ouvrir. Il prend une petite cuillère à coke en argent, la trempe dans la boîte, saisit mon menton en me dévorant de ses yeux sombres et la tient sous ma narine gauche. Je ferme les yeux et m'exécute. Il répète le rituel 2 ou 3 fois sans cesser de me dévisager. Il est obsédé par la dilatation de mes pupilles, le bleu de mes yeux qui vire au noir. Puis il se serre, 3 prises rapides par narine. Il en frotte un peu sur mes lèvres, puis les lèche, les mord. Il saisit ma lèvre inférieure entre ses dents et mord jusqu'à ce qu'apparaisse une perle de sang. Je sens son cœur battre la chamade, le mien de même. Il me prend le visage à deux mains et me susurre à l'oreille. « Retourne-toi, donne-moi ton cul. » Je m'installe sur le cuir soyeux, le laissant relever ma jupe lentement et tirer doucement ma culotte de côté. Il me laisse là un instant et se faufile de l'autre côté de la pièce, admirant le tableau. Puis il revient avec une petite paille en argent et la remplit du démon blanc. Alors, comme promis au club, il me l'insère et souffle, emplissant mon cul de coke. 6 longues lignes de coke plus tard, la chair exulte, la mémoire s'effondre, le temps disparaît, la pensée est remplacée par la sensation. Chaque molécule s'étend, s'élargit, téléportée vers une dimension parallèle. Ma respiration atteint des poches d'oxygène pur. Chaque pore réagit, stimulé par un afflux électrique. Complètement ensorcelée, mon apathie laisse place à un lent mouvement giratoire. Je ne tiens plus en place. Les muscles commencent à se tendre en profondeur. Il s'éloigne, me regardant frétiller. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, ma petite salope en chaleur? Que je te baise? Pas encore. Il est éclairé de dos au centre de la spacieuse matrice couleur crème où nous nous trouvons. Je ne me rappelle plus son visage alors qu'il se tient debout, à 1 mètre de moi. Ses traits deviennent flous dans le soleil qui jaillit derrière lui. Je suis tellement partie que je me projette sur le plan astral. Je nous observe d'un point au-delà du plafond. Je le vois serrer les poings et frapper sa bite plusieurs fois, comme un boxeur ivre qui se punirait avec des coups lents, rythmés, mortels. Je me vois encore étendue sur le canapé crémeux, tirant ma culotte de côté, exposant ma chair rose. Nous sommes tous les deux hypnotisés. Une dimension maniaque gonfle en nous, nous engouffre. Je quitte le canapé et me mets à 4 pattes, léchant ses poignets épais. Il continue à se cogner, lentement, posément, mortellement. Il retire sa ceinture et me fouette méthodiquement le cul. 1 fois, 2 fois. Il me demande si j'aime ça. Je fais oui de la tête, m'inclinant vers le sol et soulevant mon cul en même temps. Chaque fois qu'il frappe son mandrin, il fouette le sillon de mes fesses, me faisant trembler la chatte. Je gémis comme une bête heureuse. Je reprends possession de mon corps, enragé maintenant. Je me saisis de sa queue, la lèche, la suce, l'avale, la garde au fond de ma gorge et l'y retiens, suffoquant sur le musc de son membre. Je refuse de céder même 1 centimètre de son sexe, à tel point que je manque de m'évanouir. Puis je refais surface, affamé, avide. Il s'empoigne d'une main ferme, fouette mes lèvres avec son gland sans m'autoriser à le sucer ni à l'avaler. Il fouette son pieu épais gorgé de sang contre mes joues. Je laisse reposer contre ma bouche. Je m'allaite. J'entête la pointe. De sa ceinture, il forme un nœud coulant qu'il glisse autour de ma gorge, libérant mes cheveux en douceur. Il me tire derrière lui à 4 pattes, comme son animal familier, me promène jusqu'à la cuisine. Carrelage d'un blanc parfait, brillant. Il me soulève et me dépose sur le comptoir immaculé, au centre. Il m'assoit face à lui. La ceinture est quelque peu dénouée. Elle pend. Il se penche sous le comptoir et prend un rouleau d'emballage plastique de taille industrielle. Il commence à entourer mes seins et mon buste entier, en serrant. Il m'emballe encore et encore. Je suis momifiée dans une membrane collante. Il coupe les bords avec un petit couteau à désosser, aiguisé. Lèche les coins du plastique, me scelle hermétiquement. Puis, il découpe machinalement un autre grand morceau et m'en recouvre le visage, scellant ma respiration. J'ai l'impression d'être une poupée gonflable, prête à éclater. Il écrase sa bouche contre mon nez, ma bouche, aspirant ce qui me reste de souffle. Il se tient contre ma bouche quelques secondes de trop. Il sent l'asphyxie monter et descend entre mes jambes. Suce, mord, avale jusqu'à ce que je jouisse rapidement, noyant son visage et son cou de mon jus. Il se lève et coupe lentement un petit trou entre mes lèvres, tenant la lame aiguisée dans ma bouche. Je la lèche et la suce. Puis il la retire, incisant soigneusement une minuscule entaille sur ma lèvre inférieure dont il a déjà goûté le sang. Il boit de nouveau, une seule goutte. Ensuite, il m'arrache le plastique du visage. Je m'effondre, essayant de reprendre mon souffle. Il me tire vers lui, m'embrasse, me caresse le visage, les cheveux qu'il écarte de mes yeux baissés. Il fait monter mon regard vers lui, sa grippe me saisit à la gorge d'une main fermement. Viens. Il m'enlève du comptoir, me tirant par la nuque vers le salon. Face au canapé, il me force à m'agenouiller devant lui. Il plonge deux doigts dans le poudrier et m'enfonce ses deux extrémités blanches au fond du nez, dans la bouche, dans la gorge, et de nouveau au plus profond du nez. Il s'immobilise, se retire, savoure le spectacle. J'oublie où je suis, qui je suis, mais je sais pourquoi je suis là. Je me détourne de lui, je m'ouvre, décollant ma culotte humide de mes rondeurs obscènes. Je tends mon sexe en l'air comme un lynx en rute en quête d'une proie violente. Il glisse vers moi et me soulève, ses doigts dans mes orifices juteux. Des petits trous serrés qui, autour de ses phalanges, font des bruits de succion gourmands, tels des bouches avides. Tu n'en peux plus, hein ? Tu la veux, hein ? Tu la veux ? Il se fout de moi. D'une voix à peine audible, je réponds « Oui, espèce de salaud. » Il s'enfonce brutalement en moi, m'empale sur son pieu. D'une main, il me tient à la gorge, me tirant la tête de côté afin que je puisse voir son calme faire place à la fureur, son visage devenir frénétique de jouissance. Il secoue sa tête de droite à gauche, plaquant ses hanches minces contre mes fesses rondes. Sans relâche, il nous martèle tous les deux jusqu'à l'anéantissement. J'en ai le souffle coupé. On change fréquemment de position. Par derrière, assise sur lui, de côté, contre le mur, accroupi, cassé en chien de fusil, sur ses genoux, à l'envers, cherchant désespérément le chemin le plus lisse, le plus profond. Il me replace sur lui, tenant mon cul entre ses doigts magiques qui pétrissent, tirent, pincent et tordent sans cesse. Il m'étire, m'ouvre, me fait rebondir sur lui pendant des heures, du moins c'est mon impression, jusqu'à l'effondrement. Nous sommes tous les deux trop épuisés et engourdis pour jouir. Alors, nous nous détachons l'un de l'autre, trempés, vidés, comateux. Allons-nous coucher ? Ronronne-t-il. Je lui mens. Je prétends que j'arrive, que j'aimerais juste prendre une douche. Il me dit de faire comme chez moi et disparaît dans la luxueuse chambre à coucher. Je me glisse sous la douche. Ses jets froids, rythmiques, calment le petit animal malmené que je suis. Revenant à la réalité, bien lessivée, je m'habille et décide de partir après avoir raflé une poignée de billets. Navré de ne plus le revoir, mais je ne peux plus. Toute cette cocaïne serait mauvaise pour ma santé. Blood rush to my head, they hot lock popping off the fucking block. Now clocking wristlet, watch bent top off. Step up, dragon, volume blasting, bailing out my brain. Red light flash. Them stop, I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Mastermind and lace the app with black that fist and the razor stratus. Come like the far that flying. Don't wait for me if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs and I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there, wasn't there, wasn't there. Nothing
out there, been staying solid. Hit the ball, stay deprived, who drove the car. But I'm still alive, up in smoke, boom is low. As you know, didn't say I did. Who's this, know what this is? But do you know? Got blood rushed in my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clocking wristed, watch been top. I fly inside that watch and big shots. Sleep shots for the one who quit. So many ways to skin the frame. Remember when the first shot strays. Now just think it's life away. So what comes next? Right away. Right away. Right away. Right away. By the way, raise the curve, feel the joy, come black like a red sky. Don't get people of your eyes, sick this music, feel the night, looking through your mastermind. Feel mercy, man, cry. Yeah, I'm knowing it, you know, raw. Yeah, through mental evidence, I could think, hold me, get crucified, can't close this here. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? With a ski mask on my face. Got blood rush in my head. They hot, not popping off the fucking block. Not clocking wrist, they watch me pop off. Oh, yeah. Tropic manic cycles, fire water burning bottles, break up raging cold attacks, and take me to the nearest city. Sell out of me, yeah, get at me, make it quicker, blood, I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head, pierce the bone, I felt the breeze. Lift my thoughts up into bed with a paper crop skeleton wing. Know nothing since then, but seen, been floating to the next, it's spreading dreams. Got blood rush in my head, they hot, not popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch been top off. Got blood rush in my head, they hot. Like popping off the fucking block, not clocking wristed, watch been top off.